de l'évolution de notre société, la question est de savoir si l'art peut être autre chose qu'un objet de marché, tout en étant éventuellement aussi cela. S'il peut être l'expression d'une culture, quand il y a culture, il y a un rapport profond entre artiste et non-artiste. Il y a quelque chose qui les relie tous deux à un espace qui aura éventuellement aussi les couleurs d'une époque et d'une localité. Cet espace peut être soit transcendant au monde, soit immanent au monde. Et pour les années 60, qui ont été des années très, très marquantes, voici ce qu'il disait. Un peu partout, les années 60 furent une époque de questionnement. On se posait des questions sur le statut de l'œuvre d'art, sur le statut de l'artiste dans la société. Est-il encore une figure centrale ? Hegel déjà avait dit non. Et on se posait des questions sur des stratégies possibles. En attendant, la réification, la massification, l'unidimensionnalisation, la platitudinisation qui avait été à l'origine du malaise et de la révolte, augmentée de plus en plus visiblement, de plus en plus audiblement. Certains allaient finir par s'y intégrer, cherchant tout au plus un « créneau », entre guillemets. D'autres allaient se suicider, sombrer dans la drogue ou la folie. Les victimes étaient nombreuses, les voies qui s'ouvraient rares. 40 ans après, quelles sont les voies qui se sont ouvertes? C'est une question que je vous pose, en vous demandant simplement de regarder autour de vous et de voir quelle est la place de l'art, quelle est la place des artistes, quelle est la place de la poésie. Est-ce que la poésie est entrée dans cette unidimensionnalisation, dans cette qui est le façonnage de la mondialisation? Est-ce qu'il est devenu en définitive une marchandise comme une autre, un peu plus compliquée peut-être comme une marchandise, puisque c'est aussi une marchandise qui est aussi une marchandise politique, dans la mesure où la poésie existe surtout par les subventions, et les subventions, qui dit subventions, nous en avons ici l'exemple, comment dirais-je, flagrant, les subventions sont un petit peu les stratégies d'obtention des artistes locaux. Voilà. Alors, nous allons parler tout à l'heure de poètes de la Méditerranée, et nous allons commencer par écouter, pour avoir un peu de baume au cœur, nous allons commencer par écouter une chanteuse extraordinaire que nous aimons beaucoup ici, c'est Sandra Hurtado Ross. Sandra Hurtado Ross, qui est aussi Madame Zucchetto, de notre ami Gérard Zucchetto, grand poète, grand éditeur, grand connaisseur de l'art des troubadours. Nous allons écouter Sandra Hurtado Ross dans ses chants d'errance en Méditerranée. Ce sont des chansons séfarades. Nous allons écouter Mi Muera, Mi Muera.
Y me dedico
Voilà. Nous allons parler maintenant de Dalia Ravikovic, brièvement, pour signaler, nous avions déjà, je crois, évoqué ce livre de Dalia Ravikovic, même pour des milliers d'années, tel est le titre, aux éditions Bruno Doucet. Alors très vite, Dalia Ravikovic, elle est née en 1936 à Ramagan, c'est de près de Tel Aviv, hein. Et elle avait 6 ans lorsque son père a été tué par un conducteur ivre. Elle part alors vivre avec sa mère dans un kibboutz, puis dans différentes familles d'accueil. Alors son premier recueil, qui s'appelle « L'amour d'une orange », est publié en 1959. Et ce recueil sera suivi de 9 livres qui feront de Dalia Ravikovic la grande voix de la poésie féminine israélienne. À la fin de sa vie, elle a lutté contre une grave dépression et malheureusement, on l'a retrouvée morte dans son appartement pendant l'été 2005. Dalia Ravikovic. Je vais vous faire entendre quelques passages de ce livre, même pour des milliers d'années, pour saluer aussi le travail de notre ami Michel Eckart Elial, qui a traduit de l'hébreu, donc, ces poèmes de Dalia Ravikovic. Et je vais vous faire écouter son poème à Dalia Ravikovic, son poème à la mémoire d'Antoine de Saint-Exupéry. À la mémoire d'Antoine de Saint-Exupéry, je ne pouvais pas passer à côté. Au milieu de la nuit, un terrible clair de lune m'a rappelé la mort en 1943 d'Antoine de Saint-Exupéry. 21 ans après, des bouts de papier tournoient dans le vent. 21 ans déjà que la mer est toujours bleue au printemps et que ses eaux sont devenues du sable. 21 ans que le monde vit sans lui. Il y a 21 ans, son avion a plongé dans la Méditerranée entre les bourrasques du printemps. Ce n'est plus le même monde, de l'herbe et du vent et du sable. C'est le reflet d'un monde qui existe sans Saint-Exupéry. La vie n'est pas éternelle pour personne, mais s'il avait survécu à ce jour de mars 1943, il serait avec nous un grain de lumière, une rose sous la brise, un rire dans les nuages. Alors elle pose la question aussi, c'est une question en filigrane, qu'est-ce que Antoine de Saint-Exupéry dirait de notre époque? Il y avait un livre d'Alain Vircondelet qui était parti avant que l'on découvre véritablement donc l'avion de Saint-Exupéry, que l'on sache à peu près d'une façon à peu près certaine qu'il ait été abattu par un chasseur allemand. Il y avait Alain Vircondelet, spécialiste d'Antoine Saint-Exupéry, qui avait fait tout un essai qui m'avait marqué, moi, je sais, à l'époque, en disant qu'en définitive, Antoine de Saint-Exupéry ne pouvait pas s'adapter à la technicité tout azimut, à la technologie qui remplaçait toute chose et à l'évolution de la vie qui l'avait vu évidemment totalement changé cette vie du pilote qui naviguait un peu à vue et qui faisait de son art de vol, de pilote, véritablement quelque chose qui était une activité humaine et qui maintenant allait en définitive être de plus en plus relayé par les machines, par les technicités. Combien il avait raison, Antoine de Saint-Exupéry, de voir là quelque chose qui n'était plus tellement de l'épopée humaine, mais plutôt de l'avancée de la technologie, puisque maintenant, eh bien, il y a les drones. En définitive, on sait que les guerres se feront non pas de comme les pilotes autrefois dans leurs avions, mais ce sont des pilotes qui resteront à terre et qui envoieront des drones. Voilà. Donc Saint-Exupéry, lui, il avait senti ça, il avait senti que la part de l'épopée humaine, la part de ce qu'il y avait de noble, de terriblement noble, de héroïque, disons-le, dans ce métier, eh bien, tout cela allait disparaître. Mais il n'y avait pas que cela, bien sûr. C'est toute une civilisation qui allait de plus en plus se déshumaniser. Et c'était la thèse, donc, de Alain Vercondelet, c'est-à-dire cette prophétie qu'avait ressenti Antoine de Saint-Exupéry vers cette déshumanisation de la civilisation humaine et qui lui était en définitive peu supportable. Je vais revenir à Dalia Ravikovitch en vous lisant un autre texte d'elle. Tu te souviens bien sûr, quand tout le monde part, je reste seul avec les poèmes, les miens, ceux des autres. Je préfère les poèmes écrits par d'autres. Je reste en silence et ma gorge se desserre. Je reste. Parfois, je veux que tout le monde s'en aille. Écrire des poèmes, c'est peut-être une chose agréable. Tu es aussi dans la pièce et les murs deviennent plus hauts. Les couleurs deviennent plus violentes. Un mouchoir bleu se transforme en puits profond. Tu veux que tout le monde s'en aille. Tu ne sais pas ce qui t'arrive. Pense peut-être à autre chose et tout passera. Tu seras clair et pur après l'amour. Narcisse était si amoureux de son image. Idiot. Celui qui ne comprend pas qu'il aimait aussi la rivière. Tu restes seul. Ton cœur fait mal, mais il ne se brisera pas. Peu à peu s'estompent les figures. Les blessures s'effacent. Un soleil coupe le milieu de la nuit. Te rappelles-tu aussi des fleurs noires? Tu voudrais être mort ou vivant, ou un autre? N'existe-t-il même pas un pays que tu aimes, un seul mot? Tu t'en souviens, bien sûr. Seul un idiot imagine le soleil se coucher à l'envi. Il se hâte toujours vers l'ouest, au-dessus des îles. Soleil et lune, été et hiver viendront vers toi, trésors infinis. Et puis ce texte, la fin de la guerre. Il vint à minuit, les jambes coupées, ses anciennes blessures depuis longtemps cicatrisées. Il vint par la fenêtre du troisième étage, c'était miracle qu'il soit entré. Nous vivions un temps de grande peine. Beaucoup avaient perdu leurs proches. Les rues étaient jonchées de papiers déchirés, parsemés d'orphelins qui revenaient. J'étais aussi glacé que le cristal quand il vint et me fit fondre comme la cire. Il me transforma comme on transforme un voile nocturne en duvet de l'aurore. Son courage était aussi diaphane qu'une buée qui s'écoule des nuages le matin. Alors, la fin de la guerre. Donc on peut aussi rapporter ce poème dans qui est fait évidemment pour la guerre Israël, mais on peut rapporter ce poème à la guerre actuelle entre de l'Ukraine. Requiem après 17 ans. Le cantor lisait les psaumes. Le murmure des arbres semblable à celui des prêtres noirs. Nous n'étions guère plus haut que les pierres tombales, et nous savions qu'il n'y aurait pas de résurrection aujourd'hui. Une échelle était posée pour l'ascension des saints et des purs, comme le saphir, la plupart gisant à nos pieds. Notre vie était une sauterelle aux margelles du soleil et de l'ombre. Mais quand la jeune fille a plongé dans les chambres de la mer, nous savions que la mer accouche des rivières. Le début du silence. J'attends le silence. Je l'attends à présent, qu'il vienne. Il commence à frémir dans les coins, il va frapper comme une tempête. Le voici. Il a déjà touché le foulard rouge. Là, c'est le bout de la table. Il s'approche. Une boîte de mouchoirs aux couleurs de l'arc-en-ciel. Les chaises aux couleurs étranges, dispersées autour de la table. Le voici descendre comme une grande main. Il enroule la pièce dans une toile. Il enroule la mer, le continent. Le foulard rouge est le tout début. À côté, la chaise verte, et dessus une serviette ouverte. Et le silence crie en moi, et moi je crie en lui. Je regarde, et je vois des mondes qui s'ouvrent et s'enroulent dedans, dans la pièce, en un large faisceau de lumière projeté par la lampe, et je demeure silencieuse et apaisée. Dalia Ravikovic, Même pour des milliers d'années, aux éditions Bruno Doucet. Traduction de Michel Écart-Elial. Michel Écart-Elial qui a été un professeur donc de littérature dans les universités hébraïques, en particulier l'université de Beersheba et de Tel Aviv, et qui maintenant vit dans notre région, puisque Michel Écart-Elial vit à Montpellier. Et puis, nous allons très brièvement revenir sur Tahar Bekri. Très brièvement, simplement parce que Tahar Bekri vient de faire paraître aux éditions Almanar, après Mûrier triste dans le printemps arabe, cette très belle édition où il y avait des acryliques de Jean-Michel Marchetti. Il vient de faire paraître, toujours aux éditions Almanar, Chant pour la Tunisie, avec des peintures d'Annick Le Toer. Alors, nous demanderons bien sûr à Tahar Bekri de réaliser une émission sur ce magnifique, magnifique livre de poèmes avec lui. Mais d'ores et déjà, je tenais à vous le signaler. Voilà ce qu'il y a. Alors, bien sûr, j'ai été très touché par ce livre à bien des titres, mais surtout au fait aussi qu'il parle de la Bretagne, cette Bretagne du Sud. Il dit « L'été 2021, je me trouvais au plus dur en Bretagne du Sud, juste en face du lieu légendaire permis par Gauguin, vous savez, là où se trouve l'île de Groix, où le destin de la Tunisie se scellait en 1954. C'est quand même extraordinaire, ça. Et dans l'émission des Matins Marins, j'écrivais, nous dit Tahar Bekri, quotidiennement, ces chants là qui ont été publiés. Donc ce sont des chants de célébration, d'amour, d'exil, d'histoire aussi que l'on retrouve, hein, et la mémoire et l'actualité. Habité par ce qu'il appelle le pays réel, pays rêvé, c'est une expression de Édouard Glissant, le poète Édouard Glissant, et on est là dans l'ouverture au monde. Tahar Bekri, rappelons-le, est né en Tunisie, à Gabès, c'est un poète des années 50, et ses œuvres sont traduites dans différentes langues et font l'objet de travaux universitaires et artistiques. Il est actuellement maître de conférences honoraire à Paris 10 et il a eu le prix du rayonnement de la langue et de la littérature française de l'Académie française en 2019. Voilà, nous reparlerons de Chants pour la Tunisie. Je vous invite donc à vous procurer ce livre dont nous parlerons avec l'auteur. C'est un livre qui vous coûtera 16 euros. Et je voudrais simplement quand même revenir sur Mûrier triste dans le printemps arabe pour vous lire ce poème sur Verset pour Haïti. Alors pourquoi pour Verset pour Haïti? Parce que Tahar Bekri a été fait maître aide-jeu de l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse. Donc il est lié maintenant au mouvement littéraire donc de cette académie. Et également, nous avons dans cette académie, nous avons un poète qui vient de Haïti, un poète extraordinaire qui a écrit un roman qui est à mon avis une merveille, un pur chef-d'œuvre. Il s'appelle Soleil à coudre. Il s'agit de Jean d'Amérique. Et donc, comme Tahar Bekri a composé ce poème, Verset pour Haïti, j'ai voulu les réunir un peu tous les deux dans la lecture de ce poème. Jean d'Amérique, donc, et Tahar Bekri, tous deux maîtres et jeux de l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse. Verset pour Haïti. J'ai de toi, île, la colère de l'orange verte, et me souviens de cité soleil, chiens errants, détritus, ruisseaux, éboues. Et moi, la gorge nouée, je serrai les dents. Débris brisés et debout. J'avais dans l'oreille le cri de Césaire. Nous sommes de ceux qui disent non à l'ombre. J'ai de toi la secousse des goyaviers. Ma sueur n'est pas froide. Mon coton est noir, dessus, dessous. Combien de pilons faut-il sublier pour parer au noble pagne tous ces coups? Je suis l'ancêtre, disait Chikaya. Je ne marche pas, je danse. Je me fous des pierres mortes. J'ai la douleur du Christ et des ailes de vaudou. J'ai de toi, île, le tourbillon des cyclones. Et ne sais, flamboyant, si tes fleurs sont sourdes aux ventres en pleurs. Ou si le champ de café est saisi d'insomnie. Mais je n'ai ni la patience de l'acacia, ni l'insouciance des palmes pour consoler le vent et apaiser l'enfant qui mange les galettes d'argile au milieu des larmes de crocodile. J'ai de toi, île, le séisme des failles, dans la mémoire de la terre, des sanglots tremblants sans esquive. Je ne pardonne aux bougainvilliers leur orgueil parmi les corps aux souffles ultimes, ni chaux vives pour couvrir ton visage, ni eau douce pour chasser la sueur sur mon front. Au Cap, je montais les murailles de la citadelle du roi Christophe, à dos de mulet, les canons inutiles. Je chantais avec Aimé. Elle est debout, la négraille. Mais comment, ami, avez-vous laissé la rizière seule à la lisière de la nuit? J'ai de toi, île, le devoir des manguiers de courage, les prières des tap-tap dans la cohue. Je renais de la terre confuse, en dépit des tisons ensevelis, mon amour et ton limon prodigue et raffermi. Voilà, donc j'ai tenu à relire ces versets pour Haïti, et puis je termine quand même juste sur un des poèmes des Chants pour la Tunisie de Tahar Bekri. Je te raconte la Bretagne, mis le peintre pour capter la lumière, fusain, hortensia et rose trémière, chemin creux, ombragé et fougère. Je te raconte le roi Arthur et la forêt de Brocéliande, cette harpe pour enivrer les arbres, chênes, châtaigniers, noyers et frênes. Je te raconte les îles et l'océan, les sentiers côtiers, accompagnés par les murs sauvages, prunelliers, sureaux et champs de bruyère, les ajoncs confondu avec les genêts, cyprès sarrasin et blé noir, je te raconte, les vallons à l'écoute des tourterelles, les quatre saisons le long des heures, et toi, comme un pin surpris par l'averse, tu secoues les années comme des gouttes de pluie. Tar Bekri, chant pour la Tunisie, avec des peintures d'Annick Le Thouer aux éditions Almanar, dont nous reparlerons. Alors, je voudrais vous faire entendre, et c'est peut-être la vocation de cette émission, Les Poètes. Depuis plus de 40 ans, nous essayons de faire entendre ici les voix de la poésie, toutes les voix les plus célèbres, bien sûr, mais également les voix mal connues ou méconnues, voire inconnues, qui jonchent le paysage de notre histoire de la poésie. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une revue de poésie, petite revue de poésie magnifiquement mise en page, toujours très bien illustrée, avec toujours un sommaire qui est de grande qualité. Il s'agit de la revue de poésie vive Nouveau Délit. Ils sont numéro 75 numéros déjà, hein. Imaginez la gageure que cela représente, le travail qu'il y a derrière, qui paraît donc ce mois d'avril 2023. Revue Nouveau Délit. Alors, cette revue, d'abord et d'entrée, je vous invite à vous y abonner en écrivant à l'association Nouveau Délit. Alors, ça se trouve dans un pays magnifique, ça. C'est à Letou, L-E-T-O-U, Letou, 46-330, à, devinez, le pays d'André Breton, celui pour lequel il avait dit qu'une fois qu'il avait été à Saint-Cyr-la-Popie, il n'avait plus besoin d'aller ailleurs. C'est ce qu'il avait dit sur Saint-Cyr-la-Popie. Je ne dois aller nulle part ailleurs. J'ai tout là. 46-330, Saint-Cyr-la-Popie. Donc, Nouveau Délit. Et je vais vous lire très, très brièvement cet éditorial de l'animatrice de Nouveau Délit, l'artiste Cathy Garcia Canales, qui écrit ceci, et combien elle a raison. Quelle époque épuisante, collectivement, et puis pour beaucoup, individuellement. Tellement qu'écrir un édito pour ce numéro semble au-dessus de mes forces. Et puis, il y aurait tant à dire que ce n'est pas une petite page qui suffirait. Quelques mots résonnent. Colère, absurdité, injustice, paix, changement, radical, urgence, catastrophe, confusion, bêtise, mépris, inhumanité, aveuglement. Mais j'ai trop usé ma langue sur les bords amers et tranchants de ce monde modelé par quelques fous qui prennent toute l'humanité et son futur en otage. Je préfère laisser ma langue, non pas aux chats, mais à toutes celles et ceux qui œuvrent à alimenter le feu des consciences, à élever l'imaginaire, à semer des graines de sens là où rien ne pousse, à parler la langue du vrai, aussi noire que nécessaire, mais qui ne triche pas, qui n'enrobe pas de vernis, de sucre, de séduction. À celles et ceux qui savent la langue de soin, qui tend vers l'autre des mots de secours, langue bonne et belle des naïfs, qui refusent de jouer dans la cour des cruels et des prétentieux, langue du sage silence aussi, quand la cacophonie rend tout contact explosif. Tant de langues, tant de possibles, car nous sommes arrivés à un moment de l'histoire où nous devons d'urgence redéfinir le sens de la civilisation, a dit très justement Hayao Miyazaki, et clairement, cette langue qu'on nous assène depuis les hauteurs des palais et des étincelants buildings n'a plus rien à voir avec une quelconque idée de civilisation. » Et elle traduit, finit, par un poème de Lionel Mazari que je vous lis. « Je sais pourquoi autant se taire. Ne pas crier dans le désert. Quand c'est chaque grain de sable qui souffre, ne pas parler au vieux mur qui radote. Passer en silence avec la petite escorte d'insouciance qu'on aura un temps séduite. » Voilà. Prêcher dans les déserts, quelquefois, je me dis que c'est un peu notre vocation ici, à l'émission Les Poètes. Alors, je vais vous faire entendre une voix qui n'est pas une voix des plus connues. Il s'agit de Marie-France Héré. J'espère que je prononce bien son nom. Ça s'écrit E-H-R-E-T. Alors, Marie-France Héré, elle est née à Paris. Alors, à la Goutte d'Or, pour ceux qui connaissent Paris, c'est quand même un quartier très particulier, la Goutte d'Or. Hein. Et elle vit actuellement entre le 18e arrondissement et un village de Haute-Marne. Et alors, elle mène des ateliers d'écriture. Hein. Alors, ça, c'est ce que font très souvent. Donc, c'est les poètes actuels, ils ont des ateliers d'écriture. Et puis, ils essaient d'avoir des résidences d'écrivains. Ces résidences d'écrivains qui vont amener Marie-France Héré un peu partout en France, et même jusqu'en Afrique et en Asie. Et Marie-France Héré, elle a publié chez différents éditeurs, alors elle a publié des récits, des romans jeunesse, ça se souvient très bien le roman jeunesse, des proses, des poèmes, des nouvelles. Sa dernière publication s'appelle Angela Davis, Éternelle Insoumise, Angela Davis, Éternelle Insoumise. Est-ce que vous vous souvenez d'Angela Davis? Voilà. Ça va apparaître dans ce mois-ci, et elle va faire apparaître dans ce mois-ci encore une insoumise, Colette scandaleuse. Colette scandaleuse, vous voyez, elle a tout pour plaire. Marie-France Héré, au jardin, alors ce sont des extraits de son recueil. Et il y a une citation que j'aime beaucoup, de Cicéron. Cicéron, vous savez, quand il écrivait à son ami Varron, Cicéron, il lui disait, si tu as une bibliothèque et un jardin, rien ne te manque. Une bibliothèque et un jardin, et on a tout. Le monde entier est là. Avril. Je regarde le pommier en fleurs. Il a besoin de mon regard pour être beau. Il n'a pas besoin de moi pour fleurir. J'ai besoin de lui, de ses pommes, de sa beauté pour vivre. Une pensée minuscule est apparue, minuscule, parfaite. Petit minois violet et blanc entre les herbes vertes. Le chat surgit, un oiseau dans la gueule. Je l'attrape par la peau du cou, sa mâchoire se desserre, l'oiseau s'envole. Pommier, pensée, oiseau, chat, jardin. J'ai enterré avant l'hiver des oignons de tulipe. Elles fleuriraient aujourd'hui. Sans moi, se faneraient. Sans moi, si je n'étais enfermé à ciel ouvert dans la maison et son jardin. On dit confiné. On dit je ne sais pas, on ne sait plus. Le coq chante, la poule pond. Je cueille du pissenlit, je ramasse du bois, je mange des œufs. Total verse de gros dividendes à ses actionnaires. Le rosier a gelé il y a 2 semaines. Il repart aujourd'hui doucement. Total n'a pas besoin de moi pour multiplier ses investissements. Et pourtant, si, il a besoin de nous. J'ai arrosé le rosier trop. Ses feuilles jaunissent. Le merle chante. Il vient tous les matins manger les baies noires du lierre. Le chat cherche une autre proie. Le lilas embaume l'air du soir, la bêche est posée contre le fauteuil de toile, le dernier rayon du soleil dort les premières feuilles des tilleuls, il s'éteint. Nous sommes le 16 avril 2020. Il est 20h21 à Château-Vilain. Virginal, nuptial. Le pommier, un gros bouquet fleuri, encore teinté de l'aube rose, de ses boutons, rayonne de blancheur, surligné à peine du vert des premières feuilles. Les fleurs jaunes, si jaunes des pissenlits, se transforment une par une en boules duveteuses, lumineuses fumées que le vent ne dissipe pas encore. Les ancolies attendent leur heure, les lilas pâlissent en s'ouvrant comme si la couleur se dissipait en odeur. Un jour nouveau, ou bien le même. Un jour nouveau, présent, parfait, éternel, dans la lente avancée du soleil, jour ici, nuit là, dans la lente avancée de la terre autour du soleil, lente spirale, du presque même, dans la contemplation solitaire d'une splendeur imaginaire et mystérieuse. Au plus léger vent, il neige sous le cerisier, le pommier ne frémit pas, immobile de beauté. Jaune, rose, rouge, mauve, comme des bonbons acidulés, piqués ici et là, les tulipes surgissent, pâlissent, se tordent et s'éteignent, pétale à pétale, le temps s'étale. Silence des oiseaux. Faut-il couper les ponts? Abandonner l'absence à l'oubli, n'être que présence. La forêt de Tchernobyl brûle tout près du sarcophage de la centrale. Au Parlement, une voix s'élève pour porter l'espoir d'un nouveau modèle de société. Les mésanges gazouillent. Toc, toc, un pivert. Que cherche du bout du bec la mésange sur la pousse rouge et tendre du rosier qu'elle ploie? De doux nuages gris nous protègent aujourd'hui de la tyrannie du soleil. La beauté ne prouve rien. Elle interroge seulement, comme la pitié de Delphes. Faut-il s'inquiéter de ne s'inquiéter de rien dans cette époque inquiète? La voisine a retrouvé 3 poules mortes, tombées derrière une cloison. On les croyait mangées par le renard depuis l'hiver dernier. La porte est grande ouverte sur le soleil à venir. Le pommier, à son tour, pleure en grosses larmes blanches, sa beauté déclinante. Partout, dans les rues du village, par-dessus les murs, les lilas débordent triomphants. La présence du présent repousse l'instance des images mentales. Maya agite au vent son voile. Le pommier perd ses pétales. Derrière le voile, fleurs et fruits vivent ensemble. Mort et vie ne font-ils qu'un? Le soleil a dépassé le sommet des tilleuls. Ses rayons se répandent sur le jardin. De l'autre côté de la planète, la nuit tombe. Rien n'est immobile. Certains présents prétendent que le présent auquel nous nous éveillons chaque matin n'est qu'un rêve. Rêve de pommier, de lilas, rêve de coq, que mes yeux, que mon nez, que mes oreilles inventent. Rêve des prédateurs, cauchemar des proies, rêve de virus, fièvre rêvée. Si nos réalités ne sont que rêves, inséparablement liées les unes aux autres, si l'amour nous en délivre, nous fait-elle entrer dans le grand secret? De quelle perfection à venir la beauté est-elle une promesse? De quelle rencontre, de quelle béatitude, de quel amour, de quelle présence est-elle le signe? Maya est une petite chatte tigrée qui s'appuie contre mes pieds pour lécher soigneusement son ventre tiédi par un rayon de soleil. Une ravissante petite tueuse. Le rayon de soleil me touche en plein visage, me ferme les yeux dans l'obscur lumineux de mes paupières baissées. Est-ce le chardonneret que j'entends? Le soleil n'est pas plus grand que ma main, qui le cache à mes yeux. Ses longs rayons traversent les feuilles du pêcher et les fleurs du pommier. Les dernières gouttes de rosée tremblent en haut des herbes au bord du rosier. L'ombre vive d'un invisible oiseau a traversé le jardin. C'est l'heure du pain grillé. Délicieuse illusion du corps. Les jeunes plantes de tomates écrivent en ombre noire sur la terre sèche des signes que le vent fait danser et qu'un nuage efface, calligraphie solaire que nul ne déchiffre. De quoi le vide est-il plein? Quel est le sens de l'absurde? À quoi joue le merle? Du lilas au noisetier, du noisetier au lilas. Les branches des noyers sont encore presque nues. Les tilleuls explosent en vert intense. Les feuilles des frênes frémissent au vent. Seuls hêtres et marronniers se balancent à peine. Elle a eu 90 ans. En novembre dernier. Et aujourd'hui, elle pioche. Heureuse, si heureuse, d'avoir la force encore de se plier en deux pour arracher ce qu'elle appelle les mauvaises herbes. La force de se relever, la force de faire de son jardin un paradis de fleurs et d'oubli. Ce soir, on fêtera ça au champagne. Le soleil prolonge chaque jour un peu plus sa présence dans le jardin. Il s'attarde en une longue caresse le long des arbres, du bas jusqu'à la cime qu'il illumine avant de disparaître. Les vieilles pierres moussues résistent et nous aussi, le chat est sur ses gardes. Le pêcher n'aura pas de fruits. Est-ce bien raisonnable? On n'entend pas les hirondelles. Demain, il fera beau. On déjeunera au jardin. Dimanche, il y aura de l'orage. Le temps obéira aux prévisions, ou pas. Le chat s'en fout. Il cabriole pour saisir un moucheron du soir. Demain, il n'y pense pas, et le merle non plus. Je suis, mais que suis-je? Sans demain, sans projet, sans but, sans combat, suis-je encore? Voilà, Marie-France Erré. Alors, j'aime beaucoup cette poésie hein, d'une extraordinaire simplicité. Alors, ce sont des poèmes que moi, je pourrais qualifier de poèmes radiophoniques, c'est-à-dire ces poèmes longs, et que l'on peut lire à la radio, parce que il y a une espèce de fluidité qui fait que le sens ne s'échappe pas, on arrive à saisir le sens quand même de ce poème, ce long poème. Donc, à suivre, Marie-France Erré. Je vous invite donc... Lorsque vous verrez ces publications, alors la prochaine s'appellera Colette Scandaleuse, hein, et puis l'avant-dernière, c'était Angela Davis, Éternelle Insoumise. Tout de même, je voudrais vous lire cette citation de Vénus Kourigata. Alors, Vénus Kourigata est aussi maître S.G. de l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse. Et elle a écrit ceci. Et c'est en rapport, évidemment, avec ce que nous venons de lire sur cette Parisienne-là, Marie-France Erré, qui alterne un peu avec le 18e arrondissement de Paris et son petit refuge dans la campagne. Les pierres de ton jardin parlent plus haut que les passants. Elles se réclament d'une ascendance qui remonte à la première caverne, quand deux silex détenait le feu et qu'un vent pauvre balayait les ronces d'un alphabet atteint de surdité. Les choses étant ce qu'elles sont, Il suffit de serrer une pierre dans ta main pour vibrer avec la planète, détecter la fronde d'un volcan, le cri d'une montagne écroulée par une fourmi. Retiens cette main. Quand le couchant dessine son dernier cercle sur le mur, le soleil n'est pas un tambour, et la discussion entre obscurité et bitume ne te concerne pas du moment que ton ombre te suit au doigt et à l'œil. Tu marches et les dieux s'impriment sur la plante de tes pieds. Voilà. Donc là aussi, les poètes sont quasiment tous des poètes des lieux. Et pour finir, j'ai un petit peu l'embarras du choix. Eh bien, puisque nous avons commencé, d'abord, j'ai remarqué que, à part Arbécrine, nous avons parlé de poète femme. Eh bien, je vais finir aussi sur une poète femme. Une poète femme, puisque nous avons commencé avec les chansons de Sepharad et de Sandra Hurtado Ross, nous allons finir par un des poèmes d'un magnifique recueil de poèmes de Karine Tuil, T-U-I-L, Karine avec un K, Karine Tuil, qui fait paraître Kaddish pour un amour, poème aux éditions NRF Gallimard. Alors Karine Tuil, c'est l'auteur de romans, hein, une dizaine, dont, alors, citons les derniers, Les choses humaines, ça a été couronné par les prix interalliés et par le Goncourt des lycéens. Et puis, son dernier roman s'appelle La Décision. Il a paru l'année dernière. Alors, Kaddish pour un amour, de quoi s'agit-il? Bien, le Kaddish, vous le savez, le Kaddish est l'une des prières de deuil que les Juifs récitent plusieurs fois par jour. Il a pour objet non pas la mort, mais le futur et la sanctification du nom divin. Il n'existe pas de Kaddish pour l'amour. Alors, une femme l'écrit, Karine Tuil, pour l'homme dont elle est séparée. Dans Kaddish pour un amour, celle qui aime cherche l'aimer dans l'absolu de sa présence. La langue est ciselée, épurée, témoin de la fragilité du sentiment amoureux. Ce splendide recueil, Kaddish pour un amour, est habité par ce souffle qui était si cher à Michonik, le souffle, et à Breton, le souffle. Ce souffle mystique qui renoue avec une tradition poétique hébraïque, cette tradition qui est trois fois millénaire et qui offre une prière universelle pour le retour de l'être aimé. Kaddish. Un peuple sans terre. Il n'y a plus de lieu sans bruit, sauf en moi-même. Il n'y a plus d'amour véritable. Tout est faux. Ceci est vrai. Tout est vain. Aimer. Souffrir. Nous sommes un peuple sans nom. Nous sommes un peuple sans terre. Nous cherchons un lieu où nous pleurons, où nous pourrons pleurer. C'est un amour sans sépulture, dont je suis la mémoire. Tu disais, je te veux pour moi, et vivre avec toi pour l'éternité. Qui es-tu? Je ne vois que l'artifice. Tu n'as pas d'émotion. Tout est flou, incertain. Et j'ai peur, comme en terrain hostile, dans le désert, la nuit, le cri des corbeaux, est ta voix. Je veux échapper à toi pour mieux te retrouver. Quand reviendras-tu? Je ne veux plus de toi. Nous sommes un peuple sans terre, sans avenir, sans enfants, un peuple sédentaire, fixé à rien d'autre que cet amour. Et nous restons, au lieu de fuir, allant et venant, dans l'opacité d'un rêve qui ne se réalisera pas. Kaddish pour l'amour. Je ne ferai pas le deuil de notre amour. Je le porterai longtemps. Je le porterai comme l'enfant qui ne naîtra pas. Dément ce qu'ils disent de toi. Défais ce que j'ai bâti en ton nom. Délie-moi de toi, car je t'aime. Je ne ferai pas le deuil de notre amour. Je veillerai sa dépouille toute la nuit, car tu m'as choisi pour écrire. Cela fut. Je ne réciterai pas le Kaddish pour l'amour défunt. Tu le réciteras seul ou avec neuf des tiens, en plaçant tes phylactères. Sur ton front, j'ai écrit, « Béni sois-tu, roi de l'univers, toi qui m'as élu entre toutes les femmes pour t'aimer. » Karine Tuil, le pur et l'impur. Béni sois-tu, toi qui m'as élu entre toutes les femmes pour t'aimer, toi qui m'as défaite par tes mots, prends-moi, rends-moi impur. Si je ne le suis pas, qui le sera? Béni sois-tu, toi qui m'as aimé entre toutes les femmes, qui m'as corrompu par tes paroles, devis-moi de ma route, délie-moi mon destin, prends-moi, émerge-moi dans l'eau dure, purifie-moi de ton amour, toi trois fois sous l'eau, ma tête pleine de toi. Mens-moi, dis-moi que tu es né au monde, pour moi, ramène-moi à la surface des choses et connais-moi. Me voici. Me voici devant toi. J'ai tourné ma face vers la tienne, ô mon éternel. Me voici dans l'obscurité de notre chambre, toi en moi. Me voici nu. J'ai posé mon corps sur le tien et les draps où nous nous sommes aimés. Je recouvrirai les miroirs de la maison que nous n'aurons pas. Je ne peux plus voir le visage de celui qui m'aime sans pleurer. Les herbes amères, j'ai mangé de ta bouche. Me voici offerte, je suis le sacrifice, accepte-le, mon éternel est un. Me voici déchiré, la lame de ton couteau a lacéré mon cœur, le sang de mon peuple coule en toi. Me voici taché par ton amour, ô mon éternel, me voici impur, et de ta chemise où je me suis caché pour pleurer, je ferai des lambeaux que tu porteras pendant 7 jours. Karine Tuil, Kaddish pour un amour, poème, aux éditions NRF Gallimard. Le livre vous coûtera 14 euros. Ainsi s'achève cette émission aujourd'hui. Nous vous donnons et nous vous souhaitons une excellente semaine, comme d'habitude, à l'écoute de Radio Occitanie, et nous vous disons à la semaine prochaine, à Dissiats.